interview de The Old Dead Tree à la Pléiade de Tours-la-Riche. Donc bonsoir.
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 Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Donc, je suis Manuel, le chanteur-guitariste de The Old Dead Tree.
Et je suis Fouad, le batteur de The Old Dead Tree.
Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu... est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez actuellement en actualité, parce que votre dernier CD est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an.
Non.
Un peu moins. The Nameless. Le dernier Perpetual Motion.
Sorti fin août.
Fin août. Ah oui. J'ai tellement écouté, j'ai eu l'impression que
ça a paru long. Fais attention. C'est pas un petit peu moins d'un an. Et ben écoute, on a enchaîné pas mal de dates,
ouais.
Notamment avec Epica, avec qui on s'entend très très bien. Donc à chaque fois on dit c'est la dernière, et puis finalement. On repart quand même, donc on a fait pas mal de dates, là on rentre d'une mini tournée hollandaise en tête d'affiche, et puis là on a encore quelques shows en France à assurer d'ici le printemps. Et puis après on va faire quelques festivals, notamment le Wave Gothic Treffen en Allemagne, des choses comme ça.
Qu'est-ce qui a changé pour vous en fait depuis le moment où vous avez sorti The Blossom chez Epsilon? Qu'est-ce que ça fait maintenant d'être chez Season, de tourner? Ça a changé beaucoup pour vous ou...
Enfin... Ouais. Quand même, je pense que quand tu commences à arrêter de faire les cafés-concerts, qui sont un passage obligé et qui est une école réelle hein, dans la musique où tu apprends incroyablement, et que tu passes sur des salles vraiment pro, y a quand même un confort qui s'installe qui est très 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 appréciable, et les conditions sont pas du tout les mêmes, le son est pas du tout le même. Et puis bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une structure au niveau du label qui est vraiment solide, qui nous soutient à fond. On a un staff technique par rapport au live qui est très 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 soudé, très très pro, et qui nous permet de faire les concerts qu'on a envie de faire. Et puis ben, on a un management, ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'envoyer nos CD comme du temps de Blossom il y a pas longtemps nous-mêmes, aux radios, aux fanzines et tout ça. Et donc non, c'est très appréciable, et ça nous laisse vraiment plus le temps de nous préoccuper uniquement de la musique, et finalement ce qui est le plus important quoi.
Justement, comment ça se passe au niveau de la composition des morceaux? Vous êtes toujours à bosser sur des trucs, ou est-ce que pour l'instant, comme vous êtes en tournée, vous mettez les compositions un peu de côté?
Voilà, on essaie de s'y remettre, parce que c'est vrai qu'on a un gros problème de lenteur. La productivité dans The Old Dead Tree, c'est vraiment pas ça. Le problème, c'est qu'on a besoin de vraiment beaucoup de concentration, et surtout, on est extrêmement exigeant. C'est-à-dire que pour un morceau qui va contenir, on va dire, 5 ou 6 riffs, on va peut-être en composer 30 et en jeter 24. Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'arriver à avoir des arrangements qui tiennent la route, à avoir des riffs qui s'enchaînent à la perfection les uns avec les autres, tout en faisant quelque chose de pas trop monotone. C'est énormément de travail. C'est voilà, on est vraiment l'inverse d'un groupe rock'n'roll classique qui va arriver, brancher les guitares et ça sort, et c'est l'énergie qui compte. C'est vrai que nous, mine de rien, on a une approche peut-être, on va dire, ça fait un peu bête de dire ça comme ça, mais peut-être un peu plus cérébrale, où on essaye vraiment de se prendre la tête sur les arrangements et faire quelque chose d'extrêmement fouillé quoi. Et d'ailleurs, ça peut parfois poser problème parce qu'en fait quand on compose, on pense uniquement à la composition, au rendu album. Et c'est après, on se retrouve avec beaucoup beaucoup de travail sur le live ensuite, puisque ben parfois on a des 3 voix en même temps, donc il faut travailler sur les samples, ou voir si on peut le faire qu'à 2 voix. Parfois il y a plusieurs guitares en même temps, pareil, on fait des arrangements, juste comme ça. Puis moi j'ai le gros défaut de composer toutes mes lignes de chant sans jouer de la guitare en même temps. Ce qui fait que quand j'essaye ensuite de combiner les deux, j'ai parfois des surprises. Mais dans l'ensemble, je pense que si on se met des limites dès le départ en pensant au live, on fera forcément un CD qui sera moins bon. Et là, pour le coup, vraiment, voilà, l'esprit, l'énergie première, rock'n'roll, tout ça, c'est, on veut vraiment à chaque fois sortir un truc qui tienne la route, qui dure longtemps. Moi, je sais que The Nameless Isis, aujourd'hui, il a 3 ans, et c'est un album que je changerai pas grand-chose dessus, quoi. Donc, cette méthode de composition-là nous permet de pas avoir de regrets.
Le fait que tu sois arrivé dans le groupe en cours de marche, en fait, qu'est-ce que t'as fait, des petites modifications sur les parties batterie ou
non. Non, pour les parties qui avaient été composées par mon prédécesseur Franck, non, rien n'a été modifié.
Des détails quoi, parce qu'au fur et à mesure, les morceaux même ont évolué, donc la batterie avec.
Mais par rapport à mon inspiration, non, j'ai pas cherché volontairement à modifier. J'ai voulu garder l'esprit de mon prédécesseur. C'était important de respecter son travail, d'accord, de respecter le travail avant que j'arrive. Après, effectivement, sur la composition du nouvel album, j'ai effectivement apporté un peu plus de moi. En tout cas, j'espère que ça s'entend.
Justement, tu... T'as officié où avant? Enfin, je veux dire, ta formation prédécédée.
Alors, j'étais batteur du groupe Oresco Référence, qui est un groupe parisien, voilà, qui qui évoluait dans l'underground et voilà, donc on avait une petite notoriété. Et, mais c'était un groupe qui à l'inverse de The Elder Tree, est un groupe un peu plus brutal et voilà, qui mélangeait le black et le death. Donc je viens vraiment de ce milieu-là.
Justement, vous êtes pas dans les groupes de, on peut pas dire trash ou quoi que ce soit, mais au niveau de la voix, des fois, c'est quand même bien agressif. C'est comment se fait le choix justement entre chant clair et est-ce que c'est sur le
c'est naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment on essaye de. Enfin, je me fixe de limite en disant bon, il faut que j'ai mon couplet en voix death, ouais, voilà. En franche en clair, comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. Ce qui fait que par exemple sur le nouvel album, les plages en fait violentes et les plages plus soft sont disséminées, sont pas trop mélangées en fait. Il y a des. T'as un enchaînement qui s'appelle donc Down notamment, qui est fait de plusieurs morceaux, qui est fait de 4 morceaux. Sur les 3 premiers morceaux, il n'y a pas une seule voix death en fait. Il y a que sur la dernière, par contre, il y en a beaucoup plus. Et c'est vraiment en fonction du morceau, ça dépendra aussi des paroles, parce que selon la manière dont je vais aborder le thème que je développe, l'agressivité va vouloir dire quelque chose. Très souvent, moi, j'essaie de jouer sur l'ambivalence aussi, de donner deux points de vue différents, en fait, en utilisant donc ces deux voix différentes. Mais dans tous les cas, c'est toujours naturel, effectivement. Et il se peut qu'un jour, on fasse un album où il y ait très peu de voix d'aise, ou un album où il y ait beaucoup moins de voix claires, ou... Faut pas se poser, en fait, si on commence à se poser des questions, déjà qu'on a du mal à faire notre truc, si on se dit, bon, faut qu'on aille à faire ça dans telle case, on va jamais y arriver. Donc voilà, faut le faire au senti. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette ambivalence-là, même si elle est difficile à assurer sur scène, parce que c'est pas évident quand même.
Ça se voit pas que c'est difficile.
Merci beaucoup. C'est quelque chose qui est quand même très important, je trouve, dans notre identité. Et je trouve vraiment, enfin, c'est très important pour nous de pas tomber dans la monotonie, dans le monocore, dans l'album qui t'as l'impression que tout se répète indéfiniment, et le fait de changer les voix, nous on change beaucoup, on travaille aussi beaucoup sur les sons de guitare, genre des choses là, ça fait partie de ça en fait, de cette variété qui fait que l'album il s'écoute vite et t'as l'impression qu'il a été très très court. Enfin, j'espère.
d'où viennent vos sources d'inspiration principales?
Ben en fait, on a tous plus ou moins des inspirations différentes. Il y a des lots communs quand même. Il y a du Paradise Lost, il y a de l'anathéma, on va dire, du commun. Et puis après, ça va jusqu'au premier Mayhem, les premiers Emperor. Moi personnellement, Nicolas et moi, on est des grands fans de Muse. Moi, je suis fan absolu de Radiohead, de Jeff Buckley, choses comme ça. Et puis après. Des groupes à la Machine Head aussi, de My Dying Bride, il y a des vins. En fait, c'est peut-être bête à dire, mais il y a du bon à prendre partout.
Oui, bien sûr.
Faut surtout pas se borner, c'est le risque en fait, c'est là que tu tournes en rond, à mon avis. Mais tout n'est pas bon à prendre quand même, quoi. Donc faut faire un tri, et puis je pense que là, aujourd'hui, on est dans un groupe qui s'est créé une identité assez forte, ouais. Et aujourd'hui, on n'est pas trop en recherche. Donc ce qui fait que les éléments qu'on apporte, on sent tout de suite s'ils sont dans la limite ou s'ils sont hors cadre, s'ils vont vraiment trop dénoter par rapport au reste de l'album. Mais même si ça s'entend pas beaucoup, il y a sur The Perpetual Motion, il y a des petites guitares funky de temps en temps qui sont dans le fond. Il y a un petit roulement limite rasta sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a des petites choses comme ça qui sont rajoutées, qui n'ont rien à voir avec le truc, mais qui sont faites par petites touches et qui font que ça passe quand même.
Et au niveau des inspirations, dans le sens des textes, c'est l'expérience personnelle uniquement, toujours.
Toujours. Que pour l'instant, je me sens pas encore d'aborder entre guillemets des textes écrits par quelqu'un d'autre. Alors j'y réfléchis aussi parce que le problème c'est, disons voilà, je pour l'instant chanter, interpréter les textes de quelqu'un d'autre, je me reconnaîtrais pas forcément dans ces textes-là, c'est comme ça que je le vois.
Oui, mais je voulais. Enfin, c'était plus.
Et le problème en même temps, c'est que chanter des choses personnelles, en même temps, c'est très particulier, c'est appauvrissant. C'est-à-dire que le thème que tu développes, donc, au moment où tu écris le morceau, que tu vas l'interpréter en studio, c'est quelque chose qui fait partie, qui vient des tripes, et c'est important pour toi à ce moment-là. Une fois que tu l'as chanté 40 ou 50 fois, ben, en fait, tu t'aperçois que toute cette énergie-là, tout ce qu'il y avait dans ces paroles et dans la manière dont tu l'as fait finalement, ben, ça a tendance à se perdre un petit peu et être remplacé par l'émotion suscitée par la musique en elle-même et la mélodie en elle-même. Et des fois, c'est gênant. Des fois c'est gênant parce que bah, notamment les textes du premier album, c'est des choses qui sont vraiment, qui touchent à des choses très très précises, qui me touchent beaucoup et qui aujourd'hui ont plus pour moi la même signification qu'à l'époque. Alors maintenant, voilà, pour resituer, donc ça parle de la manière dont j'ai vécu le décès, le suicide de notre premier batteur. Maintenant, voilà, ça fait 6 ans qu'il est parti, et forcément avec le temps, la douleur elle s'en va quand même, et qu'il reste surtout les bons souvenirs au final. Mais il y a un petit côté où effectivement, mais en même temps, c'est presque naturel, parce que je ne sais pas comment je pourrais non plus aussi tenir à chanter ça en vivant ça à 120% tous les soirs, parce que je pense que ce serait
de l'autoflagellation,
voilà, ce serait extrêmement minant. Mais ça m'a énormément aidé de les écrire et de les chanter, et ça m'a vraiment aidé à passer un palier. Et aujourd'hui, je continue à écrire sur les thèmes perso, même si c'est quand même moins, heureusement d'ailleurs, beaucoup moins profond. C'est des blessures ou des thèmes qui sont beaucoup moins fort entre guillemets, mais d'ailleurs au passage je sais pas si ça peut susciter le moindre intérêt pour d'autres personnes que moi, mais bon, moi je sais que c'est des choses que j'aime régler, c'est des choses le fait de les poser sur papier et de les chanter ensuite, ça me permet d'avancer.
Au niveau du tournage du clip, mm-hmm. comment ça s'est passé? Cette petite histoire avec le gamin dans la maison, vous avez trouvé ça, c'est la maison de disques qui a tout fait.
Ouais, d'accord. On travaille avec le réalisateur, en fait, il s'avère que c'est un ami qui a fait des études de cinéma aux États-Unis. C'est un type en qui on a complètement confiance et qui nous a soumis l'idée, et on lui a donné carte blanche, en fait. D'accord. C'est que l'idée de base de Out of Breath est donc plus centré sur un truc personnel. Et lui, il a eu envie de transposer ça, donc avec l'histoire d'enfance et d'épuisement, il y avait le côté désolation du morceau, en fait, surtout qu'il a essayé de récupérer et de transposer comme ça. Il a pas mal cherché, en fait, au niveau des lieux où tourner ça, et il a fini par trouver un château dans le Berry, en fait, avec un grenier complètement abandonné, et on a eu tout le dernier étage du château. En fait, c'était vraiment particulier, avec des toiles d'araignées partout, un nid de guêpes mort, en fait, avec des tonnes de guêpes par terre. Enfin, c'était vraiment particulier, quoi. Mais c'était une sacrée expérience, même si c'était très fatigant, mine de rien. On a pas l'air, mais chanter en playback comme
Vous avez mis combien de temps pour le tourner?
Je crois qu'on est resté, 2 jours, et il y avait une journée de pré-production avant. Mais c'est une très bonne expérience, et on est vraiment très satisfait du résultat.
D'autres clips en préparation ou d'autres images?
Pas pour l'instant, pas pour le deuxième album. Non. Mais je pense que pour le troisième, on va essayer de s'y prendre plus tôt et peut-être travailler, lui proposer nous-mêmes des thèmes, même si je pense que c'est quand même un indépendant. Donc c'est Julien Metternich, on verra s'il accepte ou pas notre. Mais bon, dans tous les cas, on est très satisfait, on lui fait vraiment confiance, donc c'est pas un souci.
J'aimerais savoir, pour en connaître un peu plus sur vous, quel est votre film préféré?
Compliqué. Ouais. En fait, compliqué, mais je dis ça, mais en fait, pas trop. Le premier qui me vient, et c'est un film que j'adore, c'est L'Impasse de Brian De Palma avec Al Pacino et Sean Penn. Je trouve que c'est un film incroyablement profond, il y a tout ce qu'il faut dedans, l'interprétation est magistrale, la réalisation est très très sobre, mais parfaite. C'est un film magnifique. C'est le meilleur Pacino, le meilleur De Palma, et non, vraiment super, j'adore ce film.
C'est arrivé près de chez vous, en fait. Pour la même raison que ce monsieur.
Bah pour Pacino aussi?
Pareil, c'est le meilleur Pacino et le meilleur De Palma. Non, c'est arrivé près de chez vous avec Boulevard.
Il faut sauver le soldat Ryan, pour moi.
Ok.
Saving Private Ryan.
Et en espagnol, tu peux le...
Ah, je ne sais pas en espagnol.
Ouais.
Livre préféré?
J'en ai plusieurs. Il y a un livre qui s'appelle La puissance de l'ange, en fait, de Bryce Courtenay, qui est un auteur sud-africain, qui a été adapté au cinéma il y a une dizaine d'années. J'ai jamais osé, en fait, aller voir le film parce que de peur d'être déçu. C'est un bouquin qui m'a touché, qui m'a vraiment remué, quoi, me faire monter les larmes aux yeux. Et puis après, il y a Dune, Frank Herbert, et Le Seigneur des Anneaux qui reste, même s'il il est touffu, hein, je veux dire, je l'ai lu 2-3 fois, mais c'est vraiment bien foutu. Et Harry Potter, mine de rien, Harry Potter, voilà, on rentre pas dans la grande littérature, mais c'est un grand, faut quand même remettre les choses là où elles sont dans le contexte. Harry Potter, c'est pour les enfants. Et aujourd'hui, un bouquin qui sort pour un collégien de 6e et qui prend pas le gamin pour un con à lui expliquer que tout le monde est gentil, tout le monde est beau et que machin, et que Harry Potter il fait sa crise d'adolescence au 3e épisode et que c'est un vrai petit con, et ben moi je trouve, voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien foutu.
Alors moi je suis un peu plus sobre, hein, le parfum de Patrick Suskind.
Oui.
Voilà. C'est pour moi le film, le livre le plus fort que j'ai. Pour plein de raisons, mais qui sont personnelles.
Tous les Zola.
Ah oui. Ah, d'accord. C'est pour ouais, première fois qu'on me.
Hors de Zola.
Le groupe, le CD préféré.
Là, par contre, on rentre dans le très dur. Ouais, ça dépend vraiment des moments. Ça dépend vraiment des moments.
Dernièrement,
J'écoute très peu de musique. Ouais. Plus ça va, bon, j'en écoute. Donc, mais après, non, pas dernièrement. En fait, il y a des CD qui restent sur la longueur. C'est du Wish You Were Here de Pink Floyd, du Grace de Jeff Buckley, du Burn My Eyes de Machine Head. Dans un autre domaine, quoi. Mais il y a des choses qui restent vraiment. Pour moi, c'est des repères, quoi. Le Wish You Were Here de Pink Floyd, je peux me l'écouter n'importe quand. C'est à chaque fois, je suis vraiment assis. Et c'est le niveau de composition, c'est hallucinant, quoi, hallucinant.
Moi, je crois que je vais rester sobre. C'est Mayhem, le premier album, en fait.
On n'y pas ses origines.
Non. Vraiment, je suis. Et Emperor in the Night Side Eclipse aussi. Ouais. Faut rester.
Tous les My Dying Bride. Impossible à les partager.
Ok.
Très très bonne réponse. Pour finir, quel est le groupe avec qui vous aimeriez jouer? Vous avez le droit à un groupe qui n'existe pas forcément, ou un groupe qui est mort, ou...
Pink Floyd, alors dans ce cas-là, si on part dans le rêve absolu,
ouais.
Pink Floyd.
Ouais,
Sinon, Muse. En activité, Muse.
Ouais.
J'adorerais jouer avec Epica, mais je sais qu'ils accepteraient pas de jouer avec nous. Et plus sérieusement, un groupe comme Opeth.
Ouais.
Ouais, mais j'étais pas là. Faut qu'on recommence.
My Dying Bride.
Et Zola.
Ensemble, sur des textes de Zola, ça peut être assez terrible. Vous avez un petit mot à rajouter ou quelque chose?
Eh ben, un bonjour à la Touraine, hein, qui est une très jolie région. J'ai de la famille un peu ici. Et puis, ce soir, on va faire notre maximum. Et je pense que ça va pas être mauvais. Enfin, on va essayer, en tout cas.
Je vois pas pourquoi ce serait plus mauvais que les fois précédentes où c'était déjà très bien.
Si jamais, hein. Des fois, le sort se change.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi. Merci.